Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M pour les 30 prochaines minutes. Bien, si vous attendez un bébé ou peut-être que vous vous préparez à en avoir un, vous savez sûrement déjà que l'alimentation de la future maman, votre alimentation, si vous êtes la maman en question, joue un rôle primordial dans le développement de votre bébé, dans votre santé également. Donc, en deuxième partie d'émission, il y a Stéphanie Côté, nutritionniste chez Extenso, qui sera là pour nous donner des conseils parce que parfois, on a accès à beaucoup d'informations, mais c'est difficile de se dépatouiller dans tout ça. Mais d'abord, si vous allez sur le site du directeur de santé publique de Montréal, vous allez voir une statistique qui est assez inquiétante, à savoir qu'au Québec, on dénombre annuellement 13 300 chutes ayant entraîné l'hospitalisation d'une personne âgée de 65 ans et plus. Et dans 50 % des cas, on apprend toujours sur le site que la chute a lieu au domicile de la personne âgée et que ça aurait pu être évité. Donc, c'est un problème de santé qui assez grave, assez important, mais ce qui est bien de savoir, c'est que la prévention est possible et j'en parle dans quelques instants avec Marie-Ève Delici, kinésiologue et répondante régionale en prévention des chutes. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir invitée.
Problème, comme je le disais, assez inquiétant parce que les séquelles qui sont liées à une chute, notamment, on le sait, pour une personne âgée, ça peut avoir de lourdes conséquences, beaucoup d'impact sur la santé globale de la personne. Donc, c'était primordial d'intervenir en ce sens. Ça fait quand même quelques années que ça existe, le programme intégré d'équilibre dynamique, le programme PIE, qui vise un petit peu à prévenir ces chutes-là chez les personnes âgées.
Oui, effectivement, c'est un programme de prévention. Puis ça a été développé, implanté justement dans l'optique que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, il y a 50 % des chutes qui ont lieu au domicile de la personne qui pourraient être évitées. Donc, mm-hmm. Le programme PIE, le programme intégré d'équilibre dynamique, c'est un programme qui va aller jouer sur tous les facteurs de risque de chute.
Ah oui.
Puis il y a vraiment beaucoup de facteurs de risque qui sont liés à la personne, qui sont liés à l'environnement, puis qui sont liés même au comportement de la personne. Donc, c'est des petites choses qui, au quotidien, peuvent avoir une importance considérable sur les risques de chute.
C'est intéressant, les facteurs de risque, Marie-Ève. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être là pour les gens qui nous écoutent, sont à la maison? Y a-t-il des facteurs de risque autour de moi?
Ah, c'est sûr, à la maison, on est entouré de facteurs de risque. Puis c'est ça qui est intéressant quand on regarde autour de nous. Même nous, dans notre vie de tous les jours, on fait des choses qui sont pas sécuritaires en termes de chute. Comme par exemple, si vous voulez des exemples, tous nos comportements à la maison, que ça soit se dépêcher pour aller chercher un objet ou laisser traîner des choses au sol, des choses qu'on pourrait facilement ranger, ou même sur la surface au sol de l'eau qu'on pourrait facilement nettoyer. Ça peut être tous nos petits comportements comme ça, mais ça peut être aussi par rapport à l'environnement autant intérieur qu'extérieur, dans les escaliers comme par exemple l'éclairage. C'est vraiment très simple, mais c'est quelque chose que des fois on n'a pas le temps d'y penser, puis surtout les personnes âgées des fois ne pensent pas à ces choses-là nécessairement d'emblée.
Et je pense aussi aux personnes âgées qui peut-être évitent de demander de l'aide par gêne et donc ils veulent faire eux-mêmes certains travaux, monter sur le tabouret, aller changer l'ampoule. Et là, c'est là qu'il y a des risques de chute, évidemment. Donc, c'est les sensibiliser à ça aussi.
Oui, oui, effectivement.
Ce programme-là, il a été créé de quelle façon? Vous êtes kinésiologue. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres kinésiologues qui se sont penchés là-dessus et qui ont créé le programme.
Oui, en fait, le programme a été créé par différents professionnels de la santé de plusieurs domaines. Puis c'est vraiment, ça fait plusieurs années, il a été développé en 1995. C'est bien sûr qu'il a été amené à changer avec les années. Mais on y a été vraiment créé dans l'optique que les chutes ont des répercussions considérables sur la santé des aînés, puis aussi sur tout le réseau de la santé, surtout dans une société qui est vieillissante comme la nôtre.
Oui.
Donc, les différents professionnels de la santé ont voulu créer ce programme-là. Puis au fil des années, il y a eu plusieurs étapes, des étapes d'évaluation, après ça, bonification du programme, qui fait que maintenant, ce programme-là, il a été implanté graduellement dans toutes les régions du Québec.
Comment les personnes peuvent avoir accès au programme? Ça se passe de quelle façon?
Les personnes âgées qui souhaitent avoir accès au programme parce qu'elles sont préoccupées par leur chute.
Ou par celui du conjoint ou de la conjointe.
Même celui de notre parent ou d'une personne qu'on connaît qui est proche de nous. La façon d'avoir accès au programme, c'est de contacter le CLSC. Puis le CLSC va pouvoir... dire à la personne où le programme se donne dans son territoire.
Parce que c'est partout au Québec, partout en province.
Oui, exactement. Puis il y en a dans tous les territoires de CLSC qu'on dit. Donc, c'est pour ça qu'on réfère au CLSC. Mais c'est pas donné, c'est pas dans un cadre clinique, là, c'est plutôt dans un milieu communautaire. Donc, les CLSC vont faire des partenariats avec les organismes communautaires de leur territoire, puis les résidences pour personnes âgées autonomes. Puis, les participants au programme vont se déplacer dans ces endroits-là pour avoir accès au programme.
Donc, si je comprends bien, Marie-Ève, la personne âgée de 65 ans et plus, parce que ça s'adresse à cette tranche d'âge-là, se rend au CLSC de son territoire et elle peut bénéficier du programme.
Bien, contacte le CLSC, puis le CLSC va être en mesure de lui donner l'information.
OK. Oui. C'est sur une durée de combien de temps?
Une session, en fait, la personne qui participe va participer au programme pour 12 semaines.
OK, quand même.
Hein? À raison de 2 fois par semaine. Donc, ils lui font faire des exercices en groupe. Mm-hmm. Puis, elle va aussi assister à des capsules d'information qui sont des capsules de prévention qu'on appelle, qui touchent à plusieurs sujets sur la prévention des chutes. Donc, ça, c'est 2 fois par semaine. Puis le participant aussi va être encouragé à continuer à bouger à la maison, à continuer d'être actif, à continuer de faire ses exercices à la maison.
Des exercices d'équilibre, par exemple?
Oui, dans le programme, c'est vraiment des exercices spécifiques à l'équilibre. Donc, il y a plusieurs types d'exercices, mais c'est plutôt des exercices... Bon, on a des exercices de renforcement, surtout des renforcements des membres inférieurs. Des exercices de proprioception, donc pour que la personne prenne conscience de son corps dans l'espace, des exercices qui vont mettre la personne en déséquilibre quelquefois, mais justement pour prendre conscience de comment la personne bouge, puis aussi des exercices de mobilisation et des exercices d'amplitude articulaire. Mm-hmm.
Est-ce que pour certaines personnes, c'est vraiment déconseillé, le programme pied?
C'est un programme qui est plus pour les personnes âgées autonomes, parce qu'on veut prévenir, dans le fond, le déclin de l'autonomie, mm-hmm, c'est ça? Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça s'applique à plusieurs personnes, mais les personnes qui auraient des problèmes de santé qui ne sont pas contrôlés ou des problèmes de mobilité trop importants, comme par exemple une personne qui ne serait pas capable de faire des exercices debout, le programme pourrait devenir dangereux dans certains cas. Donc, il faut faire aussi attention. Puis, le programme est donné par des professionnels de la santé. Donc, les professionnels de la santé vont bien choisir leur personne pour que le programme soit le plus sécuritaire possible et le plus adapté possible pour le groupe là, qui est devant.
Je pense à des centres d'hébergement pour les gens plus âgés, mais en bonne santé, autonomes. Est-ce qu'ils pourraient avoir recours au service du programme pied, c'est-à-dire appeler au CLSC et qu'il y ait quelqu'un qui se déplace dans leur centre d'hébergement?
Oui, ça arrive des fois que le programme est offert
dans les résidences
pour personnes âgées autonomes. Donc oui, tout à fait, la résidence pourrait faire un partenariat avec le C3S dans ce sens-là. Puis les personnes qui sont dans le centre pourraient en bénéficier, oui.
Mm-hmm. Parce que, et on va terminer là-dessus, Marie-Ève, parce que dans cette optique de prévention, je pense que c'est important de dire les impacts. Il y en a beaucoup des impacts aux chutes. On peut penser à des traumatismes crâniens, là, bien sûr, ou des fractures. Ça, c'est quand même grave. Il y en a d'autres aussi, j'imagine.
Oui, bien en fait, ce qu'on pense en premier, c'est bien sûr que c'est les conséquences physiques, comme vous l'avez nommé, surtout les fractures qui ont des conséquences vraiment considérables parce que la personne âgée vieillissante va récupérer beaucoup moins vite d'une blessure, ouais, d'une fracture. Puis par exemple, même si c'est dans un petit pourcentage de cas, il y en a des personnes âgées qui vont tomber, qui vont se fracturer la hanche, par exemple. Puis ça peut avoir vraiment beaucoup de répercussions sur la santé de la personne, dont la perte de mobilité, la perte d'autonomie, qui va se passer beaucoup plus rapidement. Puis, on pense aussi à des conséquences peut-être plus psychologiques aussi, ben oui, qu'on s'en rend pas compte, mais...
Fragilité, la
personne qui tombe va des fois peut-être avoir encore plus peur de tomber, avoir tendance à se retirer elle-même de certaines activités, de plus en plus sédentaire, la personne va perdre l'autonomie un petit peu plus rapidement. Donc,
c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de santé globale et c'est important d'en parler. Si vous avez envie d'avoir davantage d'informations, vous pouvez aller sur le site du directeur de la santé publique de Montréal, www.dsp.santémontréal.qc.ca. On mettra bien sûr le site sur le nôtre. Et également, la FADOC parle de ce programme-là, oui, www.fadoc-québec.qc.ca. La FADOC aussi, c'est un petit peu partout en province, donc vous pourrez avoir des renseignements via la fédération. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Marie-Ève Delici. Je rappelle que vous êtes kinésiologue et répondante régionale en prévention des chutes. Ça a été un plaisir.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Bonjour Stéphanie Côté.
Bonjour Marianne.
Eh bien, vous êtes maman, vous, donc vous êtes vraiment la personne idéale pour nous parler de grossesse et d'alimentation pendant la grossesse, parce que, évidemment, c'est la future maman, la maman qui fournit au bébé à venir tous les nutriments, toutes les vitamines. Ça contribue à la santé du bébé, également à la santé de la mère. Est-ce que les besoins nutritionnels changent? Est-ce qu'il faut adapter notre alimentation, Stéphanie?
Absolument, oui, parce que durant la grossesse, la femme ne subvient plus juste à ses besoins à elle. Elle doit subvenir aux besoins de son bébé en développement. Donc, c'est certain que les besoins changent. Il y a un besoin en vitamines, en minéraux qui est augmenté, en énergie aussi, parce que ça prend quand même de l'énergie quand on est en train de fabriquer un petit bébé. Donc, oui, il y a des besoins qui sont transformés, mais l'alimentation ne doit quand même pas changer drastiquement, parce que quand une femme mange relativement équilibré avant la grossesse, il y a juste des petits ajustements à faire durant la grossesse, mais ça ne change pas du tout au tout.
Donc, on continue à manger produits laitiers, des fibres, on ne change pas tant que ça.
Non, c'est encore les principes là, d'une alimentation variée, équilibrée, 3 repas par jour, 2 collations ou 3 au besoin, c'est toujours ça. Il y a une des particularités durant la grossesse qui peut incommoder certaines femmes, c'est parfois la constipation, ça c'est la faute aux hormones. Donc, il y a une attention encore plus particulière à porter sur les produits céréaliers à grains entiers. C'est faire attention de manger, d'intégrer du pain de blé entier, des céréales de grains entiers, des légumineuses, vraiment des fruits, des légumes et des fruits entiers plutôt que le jus. Ça, c'est des trucs pour ajouter des fibres à son alimentation. Puis évidemment, quand on mange plus de fibres, bien, il faut aussi boire davantage, parce que si on ne boit pas suffisamment, les fibres, ils n'aideront pas la régularité, ils vont plutôt nous incommoder encore plus. Donc ça, c'est un truc là, pour les femmes enceintes. Mais sinon, vraiment, il faut viser la couleur dans l'assiette, manger à sa faim aussi. C'est important de ne faire aucun régime pendant la grossesse. Ouais. Ça reste vraiment très important.
C'est une mode, ça, un petit peu, hein, les régimes pendant la grossesse. Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce qu'on vous en entendez parler?
Ben oui, c'est une préoccupation, parce que c'est sûr que les femmes, une femme, quand elle tombe enceinte, elle sait qu'elle doit prendre du poids, mais en même temps, elle ne veut pas en prendre trop. Donc, il y a un contrôle qu'elle essaie d'exercer sur son alimentation, sur son corps aussi. Il faut un petit peu lâcher prise. Hein. Pendant qu'on est enceinte, la priorité est vraiment de miser sur notre santé, sur la santé et le développement du bébé aussi. Donc, il faut vraiment mettre toute idée de régime de côté. Quand on mange équilibré et qu'on écoute sa faim, généralement, là, ça se passe très bien. Le poids qu'on prend, on le repère progressivement après la grossesse. Et vraiment, ce qu'il faut garantir, c'est la santé.
Combien de poids une femme enceinte devrait prendre?
C'est variable d'une femme à l'autre. En moyenne, on parle de 25, 30, 35 livres environ. Ça peut être un peu plus pour les femmes de petit poids, un peu moins pour les femmes qui ont déjà peut-être un surplus de poids. Mais cela dit, le 25-30 livres n'est pas un objectif à viser non plus comme prise de poids. Vraiment, c'est la. Il ne faut pas focusser sur la prise de poids, il faut davantage focusser sur la qualité de l'alimentation. Et la prise de poids va se faire naturellement selon les besoins et le développement de chaque femme et de chaque bébé. Il n'y a pas deux femmes pareilles. On métabolise toutes différemment. On avance toutes dans la grossesse différemment aussi. Donc, c'est vraiment pour avoir une idée de grandeur. Ce que l'on sait, c'est que le poids se prend très progressivement. Au début de la grossesse, on prend presque pas de poids. C'est vraiment durant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse que l'on en prend davantage. Donc, tout ça se fait en douceur.
Il y a des femmes qui, pendant le début de la grossesse, là, plus particulièrement, vont se plaindre de nausées ou de perte d'appétit. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça?
Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour ça. Mais en fait, il faut essayer de diviser la prise alimentaire durant la journée en plusieurs repas. Donc, pas prendre des gros repas, mais manger plus souvent dans la journée, des petits repas, des collations nourrissantes, tout pour éviter d'avoir faim, parce que souvent, c'est quand la faim se met de la partie, là, ça augmente encore plus là, ces malaises-là là, de nausées. Souvent, les nausées sont tôt le matin. Donc, ce qu'on dit, c'est d'essayer de manger un petit peu avant même de se lever du lit. Donc, avoir une petite collation de craquelin ou de biscuits ou de céréales sèches à côté du lit pour grignoter un petit peu avant de se lever tranquillement, d'essayer d'éviter les odeurs fortes aussi, les odeurs de cuisson qui pourraient incommoder. Ça, évidemment, ça varie d'une femme à l'autre, mais c'est l'occasion idéale pour demander à des amis ou aux conjoints de cuisiner pour nous, puis on va prendre une marche pendant ce temps-là, ça peut être un truc. Puis sinon, ben il y a des ingrédients comme, par exemple, le gingembre qui aide les femmes à passer au travers certaines nausées. Il y a des tisanes de gingembre, il y a des bonbons ou des capsules à base de gingembre qui aident à diminuer les symptômes de la nausée et du mal de cœur. Donc ça peut aider les femmes. Mais ça, vraiment, ça dure, heureusement, pour la plupart des femmes, ça dure à peine quelques semaines. Pour d'autres, ça peut durer plus longtemps. Donc, c'est d'autant plus important de trouver des trucs pour réussir à manger là, au fur et à mesure que la grossesse avance.
Stéphanie, on parlait tout à l'heure de prise de poids. Évidemment, quand on est enceinte, on sait que ça va avec. Il y a, par contre, des femmes, peut-être plus, notamment dans les premières semaines, mais qui vont perdre du poids aussi. Ça arrive, ça? Est-ce que c'est inquiétant?
Ça peut, entre autres, à cause de la nausée qui va en incommoder certaines. Mais quand on est suivi généralement par un médecin, il va surveiller ça. Peut-être que ça peut durer quelques semaines de perdre une couple de livres avant de recommencer à en prendre. C'est pas particulièrement inquiétant si ça ne dure pas trop longtemps. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un suivi quand même assez serré avec le médecin. Mais il faut pas s'en faire, faut pas paniquer là, dès les premières semaines. Si on perd 2-3 livres, justement, parce qu'on a de la misère à manger ou parce qu'on est... que tout est chamboulé, finalement. Ouais. Donc, non, il ne faut pas s'en faire trop rapidement. C'est vraiment au fur et à mesure que la grossesse avance que, là, avec le suivi, on détermine si tout se passe bien ou s'il y a lieu d'avoir des petits ajustements.
Est-ce que... Bon, on parlait que le régime alimentaire, on l'adapte un petit peu, mais on mange sensiblement ce qu'on mangeait avant la grossesse. Mais est-ce qu'il y a des aliments à complètement éviter?
Tout à fait. Il y a des aliments qu'il faut soit diminuer ou même exclure de son alimentation durant la grossesse. Je pense aux aliments qui peuvent nous mettre à risque d'intoxication alimentaire, parce que quand on est enceinte, tout passe la barrière placentaire, tout va rejoindre le bébé qui se développe. Donc, s'il y a des bactéries que nous, comme adultes, on est capable de se défendre contre, ben un bébé en développement, un fœtus, n'aura pas cette chance-là. Donc, il faut éviter les poissons crus, par exemple, ou les viandes crues comme les tartares. Ça, c'est sûr qu'on enlève ça. Pas de sushi, pas de ceviche pendant la grossesse. Il faut aussi faire attention doublement attention quand on manipule les aliments, à éviter de manipuler des aliments crus et cuits. Je pense entre autres à la viande ou à la volaille pour pas qu'il y ait de ce qu'on appelle la contamination croisée. Il faut bien cuire les aliments, il faut se laver les mains avant de cuisiner, il faut laver les ustensiles aussi. Tout ça pour vraiment diminuer les chances là, qu'on se fasse intoxiquer par des bactéries qui seraient dans les aliments. Donc ça, c'est une chose. Il faut diminuer notre consommation de café. Si on est un grand consommateur de café, on peut continuer à en boire. On parle de 1 à 2 tasses par jour. Ça peut convenir à la majorité des femmes enceintes. Mais si on est habitué d'en prendre 3-4, il faut diminuer un petit peu la dose.
J'avais entendu dire, vous me corrigez si je me trompe, que justement, la caféine, il faut faire attention. Donc, si on aime le chocolat, on aime le café, il faut faire des choix dans la même journée. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai parce qu'il y a de la caféine, pas seulement dans le café, il y en a dans le chocolat, entre autres. Je dirais aussi les boissons énergisantes, mais ça, c'est un autre aliment qu'on devrait éviter pendant la grossesse parce qu'en plus de la caféine, il y a d'autres substances, d'autres ingrédients qui ne sont pas nécessairement recommandés, même qui sont déconseillés durant la grossesse. Donc, pour ce qui est de la caféine, si on aime le café, mais qu'on aime aussi le chocolat chaud ou le chocolat ou les desserts au café ou au chocolat, là, à ce moment-là, oui, effectivement, il faut faire des choix. Donc, peut-être qu'un café par jour avec une autre petite douceur au chocolat, ça peut, on se limite comme ça là, à être en dessous de la dose maximale de caféine.
Oui. Mm-hmm. Et en ce qui a trait au lait cru?
Bien, c'est un autre aliment cru qui a pas eu le traitement à la chaleur pour détruire les micro-organismes qui pourraient peut-être causer une intoxication alimentaire. Donc, ce n'est pas recommandé pendant la grossesse. Là, tout comme les fromages de lait cru ou à pâte molle qui n'ont pas été... c'est ce qui peuvent représenter davantage là, un risque d'intoxication. Ça, idéalement, on met ça de côté durant 9 mois jusqu'à temps d'accoucher pour diminuer les risques.
Et pouvoir se gâter de fromage de lait cru.
Ah oui, ça, après l'accouchement, il y a plein d'aliments qu'on est bien content de remettre à son menu.
Par rapport encore aux aliments à éviter, c'est un mythe ça qu'on peut éviter des allergies à notre enfant en ne mangeant pas, par exemple, du beurre d'arachide.
C'est un mythe, effectivement. Il n'y a aucune étude scientifique à l'heure actuelle qui prouve qu'on peut prévenir des allergies alimentaires chez nos enfants en se privant, nous, durant la grossesse. Donc, malheureusement, les allergies se développent d'une autre façon, sans aucun égard à ce que la maman mange durant la grossesse. Donc, on voudrait bien essayer de prévenir ces casse-têtes-là plus tard dans la vie, mais ça ne se fait pas pour l'instant.
Un autre mythe, manger pour deux, ça non plus, hein? C'est comme juste une petite excuse qu'on se fait pour se gâter.
Oui, effectivement, parce que c'est pas manger deux fois plus, c'est manger, en fait, porter deux fois plus attention à ce qu'on mange. Parce que c'est même pas manger deux fois mieux si on considère que dès le départ, on devrait essayer de bien manger.
Ouais.
Parce que c'est pas manger deux fois plus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de poids se fait davantage après le premier trimestre. Au tout début de la grossesse, nos besoins en énergie sont presque pas affectés par la grossesse. C'est vraiment juste à partir du 4e mois de grossesse que là, nos besoins augmentent. Mais quand je dis augmente, c'est à peu près un 300 calories par jour. Puis dans le dernier trimestre, c'est un 450 calories par jour. Donc, c'est pas énorme quand on considère que d'avance, on en mange peut-être 1800 ou 2000 calories. Tu sais, c'est l'équivalent d'à peu près un fruit, un verre de lait, puis
une barre tendre. Ouais.
Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est à peu près le surplus de calories qu'on a besoin à partir du 3e mois de grossesse. Donc, c'est vraiment pas, on n'est pas à manger deux fois plus parce que si on est à manger deux fois plus, c'est là que la prise de poids pourrait être importante et peut-être plus difficile à perdre après aussi, puis sans amener nécessairement plus au bébé. Là. Plus, c'est pas nécessairement mieux.
Oui. En préparant l'émission, j'étais un petit peu mélangée parce qu'on a beaucoup d'informations et bon, vous ne m'avez pas entendu, Stéphanie, mais en intro, je disais ça. On le sait qu'il faut bien manger pendant la grossesse. On sait que c'est évidemment important pour notre santé, la santé de l'enfant, mais il y a tellement d'informations que des fois, c'est mélangeant, notamment en ce qui a trait aux suppléments. On pense acide folique, le fer, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
c'est nécessaire. En fait, l'acide folique est vraiment celle sur laquelle on doit miser. Puis même avant de tomber enceinte, c'est recommandé de prendre un supplément d'acide folique parce que l'acide folique va contribuer au développement de la colonne vertébrale, du fœtus, du cerveau, de son crâne aussi. Wow. Et ça, étant donné que c'est les parties du corps qui se forment au tout début de la grossesse, des fois, on ne sait pas toujours quand on tombe enceinte à la minute où ça arrive. Et il faut être bien préparé, il faut que notre corps soit prêt à soutenir le développement d'un fœtus. Donc, quand on planifie tomber enceinte, il faut y aller tout de suite avec un supplément d'acide folique et se le poursuivre durant toute la grossesse. Donc, pour éviter les casse-têtes de dire, bon, mais de quels nutriments on a besoin pendant la grossesse, il y a des suppléments qui sont vraiment conçus pour les femmes enceintes et qui amènent la dose nécessaire, entre autres, d'acide folique, mais qui vont amener plusieurs autres vitamines et minéraux en combinaison et qui vont généralement nous assurer, en fait, de compléter ce qu'on va chercher dans l'alimentation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une multivitamine, c'est pas un passeport après ça pour ne plus se soucier de notre alimentation. Là, vraiment, ça vient en complément. Mais comme vous disiez, oui, il y a beaucoup de questions à se poser quand on est enceinte. Il y a beaucoup d'informations disponibles aussi. Fait que je dirais qu'il faut se tourner vers des sites Internet des sites Internet ou des professionnels là, qui vont nous amener faire le ménage, faire la lumière dans toute l'information. Puis à ce titre-là, je dirais que le site d'Extenso en a vraiment beaucoup. J'ai tout relu là, pour me préparer à cette entrevue-là. Et vraiment, là, il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir pour la femme enceinte.
Pour les femmes qui auraient des modes alimentaires différents, je pense par exemple au végétarisme, les végétariennes, est-ce qu'il faut adapter, est-ce qu'il faut se mettre à manger de la viande? Comment on fait pour pallier à ça?
Une femme végétarienne peut mener une belle grossesse. Il n'y a pas de problème pour ça, mais oui, c'est certain qu'il faut faire attention à certains nutriments. Parce que quand on exclut tous les aliments du règne animal, ben oui, il y a moins de fer, il y a moins d'acide gras essentiels comme les oméga-3, la vitamine B12, le calcium. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre alimentation amène ces nutriments-là dans d'autres aliments. Et c'est possible. Il y a par exemple les boissons de soya enrichies qui peuvent très bien faire l'affaire plutôt que du lait. Il y a des... c'est sûr que plus on exclut d'aliments, plus on est à risque de... En fait, plus il y a de manque possible. Je pense entre autres aux végétariennes. Si les végétariennes, une fois de temps en temps, mangent du poisson, ben là, on va chercher des acides gras, on va chercher de la vitamine B12 aussi. On va chercher du calcium, par exemple, quand on prend du saumon en conserve. Donc, c'est sûr que si on peut ne pas être une végétarienne stricte, c'est encore plus facile. Sinon, je dirais que dans le cas du moindre doute, on peut consulter un nutritionniste pour s'assurer que tout est équilibré, qu'il n'y a pas de manque. Mm-hmm. Mais c'est possible d'avoir une alimentation végétarienne enceinte en mettant vraiment des légumineuses au menu, du tofu, des légumes variés, des céréales, et voilà.
En consultant le site d'Extenso, Stéphanie Côté, vous êtes nutritionniste justement chez Extenso. Merci beaucoup pour l'émission.
Merci beaucoup, Marianne.
Bye bye.
Bye.
Merci, Kamal Salifou, à la mise en onde. À demain. Bye bye.